J'ai eu ma mère au téléphone.
Elle m'a raconté le témoignage d'une jeune fille qui vient de se faire baptiser. C'est une personne que je connais depuis longtemps, mais je n'ai pas pu grandir. Très jeune, elle a touché à la drogue. Elle a failli donner sa vie au diable. Alors qu'elle était au plus bas, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Elle a vécu de nombreuses délivrances et veut maintenant servir Dieu et lui exprimer toute sa reconnaissance par sa vie. Et c'était toujours, ma mère disait, quand le pasteur lui disait les mots qu'on a l'habitude de dire pour les personnes qui se font baptiser, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Et toutes ces questions présentées, elle s'était dit oui, mais elle a tellement affirmé. On voyait d'où elle sortait et donc on voyait une confiance tellement forte. Dieu. Je suis à chaque fois touché, je ne sais pas pour vous, quand j'apprends que des personnes que je connais depuis longtemps ont dit oui à l'amour de Dieu. J'en connais plusieurs. Dieu agit. C'est vraiment l'une de mes plus grandes joies d'entendre qu'une personne a placé sa foi en Jésus-Christ. Mais même si c'est l'une de mes plus grandes joies, c'est toujours un défi pour moi d'être tout le temps engagé à être un témoin de Jésus-Christ dans mon quotidien. Pourquoi? Parce que mon quotidien peut facilement être pour moi mes propres affaires. Être pleinement engagé à être un témoin au quotidien, c'est faire le choix de donner de son temps à ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est aussi les aimer. C'est prier régulièrement pour eux jusqu'à voir Dieu agir dans leur vie. Cela demande d'être un minimum organisé et intentionnel. On l'organise dans notre semaine, on veut atteindre les personnes pour Christ. Alors, je donne cette question, sommes-nous vraiment engagés à être des témoins auprès de ceux qui ne connaissent pas encore l'œuvre de Jésus-Christ et l'intimité avec Dieu? Sommes-nous vraiment engagés dans cela? Le texte que nous allons lire ce matin est très court, 2 versets. Il va nous donner un encouragement, un exemple à suivre et aussi une mission. Aujourd'hui, nous finissons notre série de messages sur le livre des Actes. Alors, on va entendre ça, on dit déjà, puisque en fait, on a juste à la moitié du livre à peu près. Et en fait, le temps nous manquerait pour vraiment prendre, faire tout le livre et nous aimerions passer à un autre livre donc, pour cet été. Et donc, je vous propose de tout de suite aller à la fin du livre. Donc, je vais lire Actes, chapitre 28, versets 30 à 31. Je vous laisse le temps de trouver ce texte dans vos Bibles. Actes, chapitre 28, versets 30 à 31. Sur les tablettes. Donc, Actes chapitre 28, versets 30 à 31. Je lis. Paul resta 2 ans entiers dans le logement qu'il avait loué. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Il proclamait le royaume de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Fin du livre. Commençons par l'encouragement pour nous dans ce texte. Premièrement, personne ne peut freiner l'annonce de l'Évangile. Vous savez, Luc, l'auteur du livre des Actes, avait pour but de raconter avec exactitude la naissance et le développement de l'Église. Le livre des Actes est un accomplissement de ce que Jésus avait dit dans Actes. Chapitre 1, verset 8, 6. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. On constate en effet que le témoignage des Actes progresse selon cette perspective de Actes 1, verset 8. Dans
et chapitre 1 à 7, l'évangile est annoncé à Jérusalem. Puis au chapitre 8, en Judée et en Samarie. Dans les chapitres 11, 10 et 11, on assiste à l'ouverture du royaume aux non-juifs, chez Cornée, puis à Antioche, de Syrie, et finalement, de 13 à 28, la bonne nouvelle se répand d'Antioche, de Syrie, à Rome, et pour ceux qui savent ce qu'était Rome, Rome, la capitale du bout du monde. Et donc là, clairement, à la fin, Luc nous laisse avec cette phrase qui est vraiment pour dire c'est l'accomplissement de Acte 8. Il proclamait le royaume de Dieu, donc Paul, et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Paul est à Rome, capitale du bout du monde. Tout au long de ce livre, il y a une opposition violente qui se manifeste sur les croyants. Et pour ceux qui ont vu le film qui est sorti sur Paul, vous pouvez vous imaginer un peu à quel point c'était violent. Haine, persécution, emprisonnement, lapidation, mise à mort violente, et j'en passe. Mais dans toute cette opposition violente, la fin de ce livre nous rappelle que Jésus continue à accomplir ce qu'il a dit, je le répète, dans Acte 1. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. L'évangile de Jésus-Christ continue à être proclamé et va jusqu'au bout du monde. Alléluia! Il y a de quoi nous encourager. On entend encore aujourd'hui que dans les pays où les chrétiens sont le plus persécutés, l'évangile continue à être annoncé et à transformer des milliers et des milliers de vies. Ça, c'est l'œuvre puissante et admirable du Saint-Esprit. Quel fort encouragement pour nous tous. Personne ne peut freiner l'annonce de l'évangile. Et aujourd'hui, il y a encore, on entend des peuples non atteints, et nous voulons encore être dans la prière pour que tous les peuples soient atteints par l'évangile. Après cet encouragement, il y a un exemple à suivre. C'est notre deuxième point. Paul profite de chaque occasion pour annoncer l'évangile. Alors, je rappelle que Paul, c'est un homme qui était pharisien, du parti le plus strict concernant l'observation de la loi de Moïse. Paul avait persécuté l'Église de Jésus-Christ avec zèle et a même voté la mise à mort des chrétiens. Jour, il a vu Jésus-Christ, ce qui a été un tournant radical dans sa vie. Il est devenu apôtre de Jésus-Christ. Dieu l'envoie pour parler de lui aux autres. Il va ensuite servir Jésus-Christ de manière remarquable. Il va beaucoup voyager, beaucoup voyager, pour affermir les croyants et pour annoncer le message le plus extraordinaire au monde. L'évangile de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés, la vie éternelle. Parce que là, Jésus-Christ rétablit notre relation avec Dieu pour toujours. Il a pris, donc l'apôtre Paul, énormément de risques. Plusieurs fois, il a failli mourir à cause de tous ceux qui sont opposés au message qu'il ne cesse d'annoncer. On sait très bien, là, au-delà des personnes qui étaient opposées au message de l'Évangile, il y avait très clairement derrière Satan qui attaquait. Après trois voyages missionnaires, les chapitres 21 à 28, nous montre Paul qui va être attaqué et battu par les Juifs d'Asie, arrêté par un officier romain, s'adresser à une foule juive et au grand conseil, être transféré à Césarée, être jugé devant Félix, être emprisonné à Césarée, être jugé devant Festus, faire appel à César, faire un discours devant Agrippa, prendre un bateau pour Rome, faire naufrage, échouer sur l'île de Malte et
un soldat. Il est donc enchaîné, en fait, constamment à un soldat romain. On dit même que, très certainement, il y avait des soldats qui se réveillaient, 3 soldats par jour. Paul ne peut plus voyager comme il le faisait. Il ne peut plus annoncer l'évangile avec la pleine liberté qu'il avait en allant de droite à gauche. Comment doit-il faire dans ce logement sous surveillance pendant 2 ans? Paul est surprenant. Le texte nous dit, je le recite là, acte 28, 30, il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Donc il avait ce droit-là. Il proclamait le royaume de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Ce texte dit ici que Paul, dans sa résidence sous surveillance, peut recevoir des personnes et annoncer le message de l'Évangile sans aucun empêchement. Juste avant notre texte, il avait reçu des chefs religieux de Rome. Paul, donc, a le droit de recevoir des personnes. Il proclame le royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'il parle de ce royaume qui est présent et aussi à venir, du désir aussi de Dieu de régner dans le cœur de tous ceux qui croient. Il enseigne aussi tout ce qui concerne Jésus-Christ, le Seigneur. Jésus-Christ qui est le Seigneur, au-dessus de tout. Jésus-Christ qui est Dieu lui-même. Il enseigne ce Jésus qui a vécu, qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, qui est maintenant à la droite de Dieu. Et il parle aussi du retour de Christ, ainsi que tout ce que cela implique dans la vie de tous ceux qui croient en lui. Paul proclame et enseigne l'Évangile avec une pleine assurance que lui donne le Saint-Esprit. Bien plus, dans ce lieu, écoutez bien, Paul, quand on lit les autres livres, on arrive à la conclusion que, ah, en fait, il n'a pas juste fait cela, il a même écrit 4 trésors, Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. Des lettres qui sont dans la Bible, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, ils sont paroles de Dieu. Pour Paul, toute occasion est bonne pour servir Dieu et annoncer l'Évangile. À sa place, peut-être qu'on serait comme ça, hein, je ne sais pas. À accomplir sa mission. Et celui qui avait dit dans sa deuxième lettre à Timothée, proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Paul n'a pas juste écrit cela à Timothée, il l'a vécu, même sous la garde d'un soldat, ou plusieurs. Voilà un bel exemple. Paul profite de chaque occasion pour annoncer l'Évangile. On ne le fera très certainement pas comme lui, car il avait un ministère d'apôtre. Mais Dieu veut que nous soyons des témoins là où il nous a placés. Et c'est justement notre dernier point. Dernier point. On nous passe le flambeau pour, à notre tour, annoncer. Cet aspect-là aussi, dans les flambeaux. Quand nous lisons le dernier chapitre du livre des Actes, on peut arriver à la conclusion que ce livre finit bizarrement. Il manque quelque chose. On n'a pas la suite de l'histoire de Paul, moi je veux en savoir plus. Même si on apprend que certaines choses sur Paul dans l'histoire, pourquoi ce livre s'arrête-t-il brusquement? Lui avait-il un problème? Il y a plusieurs réponses à cela, mais l'une des réponses est qu'on nous passe le flambeau pour à notre tour annoncer l'Évangile. Si le livre des Actes s'arrête si brusquement, sans une vraie fin d'histoire, c'est parce que Dieu désire au travers de l'Église les actes du Saint-Esprit et la prédication de l'Évangile continue.
persécution, les apôtres, l'apôtre Paul, dans ce dernier chapitre, et enfin Luc, qui écrit ce livre, nous passe ensemble le flambeau pour continuer la course, continuer ce qu'ils ont commencé à faire, ou plutôt ce que le Saint-Esprit a commencé à faire par l'Église. Aujourd'hui, nous sommes l'Église de Dieu qui continue à écrire l'histoire pour l'accomplissement de Actes, chapitre 1, verset 8. Et je le relis encore, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Nous avons reçu un encouragement ici. Personne ne peut freiner l'annonce de l'Évangile. Nous avons reçu un exemple à suivre. Paul profite de chaque occasion pour annoncer l'Évangile. Et pas que Paul, l'Église. Et enfin, nous avons reçu une mission. On nous passe le flambeau pour nous, à notre tour, annoncer l'Évangile. Mais qu'est-ce que nous écrivons aujourd'hui? À l'église de soir. Sommes-nous une église juste de tourner sur nos beaux programmes? Quand on est assis là, ah, ça va bien fonctionner le PowerPoint, ah, mais attends, mais il a buté sur cette phrase, et on est là à chercher juste les bons programmes, les choses qui fonctionnent, les choses qui nous. Ah, aujourd'hui, mon émotion était très, très, très haute, donc là, c'était un bon culte. Et quand on rentre à la maison, est-ce qu'on vit vraiment ce qu'on a entendu? Est-ce qu'on vit vraiment la parole de Dieu? Sommes-nous une église juste tournée sur nos beaux programmes ou allons-nous chercher le monde entier pour Jésus-Christ? Prenons le fidèle exemple de Paul, qui en toute occasion et pendant toute sa vie partageait la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Prenons au sérieux ce matin cette responsabilité. C'est une responsabilité. Devenons de vrais ambassadeurs pour Christ, capables d'expliquer ce message précieux, ce message de l'Évangile. Ne nous laissons pas freiner par quoi que ce soit. Satan, aujourd'hui, et on le voit déjà dans tout le livre des Actes, mais encore aujourd'hui, continue ainsi, Satan fera tout pour freiner chacun de nous par toutes sortes de choses. Le confort, le péché, la culpabilité, des dépendances, je pense téléphone, internet, réseaux sociaux, et ça va jusqu'à alcool, drogue, etc. L'activisme, des difficultés particulières que nous pouvons vivre, la fatigue, la maladie, et la souffrance. Le livre des Actes nous a montré des personnes qui ne se laissaient pas arrêter par des problèmes personnels ou des oppositions. Pour elles, l'Évangile devait être annoncé, quelles que soient les circonstances et quel qu'en soit le prix. C'était non seulement le profond désir de Dieu, mais aussi le profond désir de l'Église. Peut-être qu'en entendant ça, certains se disent, mais je ne peux pas servir Dieu ni partager l'Évangile en ce moment, car ma situation est trop difficile et trop dure à supporter. Je ne peux pas. Des périodes de la vie où nous devons nous arrêter, faire silence, pleurer dans la présence de Dieu, nous relever petit à petit pour pouvoir de nouveau servir de la bonne manière. Servir Dieu et partager notre foi ne doivent pas être des couvercles pour cacher ou nier nos émotions, nos blessures, nos luttes, nos souffrances. Et combien de fois nous chrétiens nous tombons dans ça? Attention. Si c'est le cas, si nous avons cette tendance à mettre un couvercle sur nos souffrances pour servir Dieu, c'est dangereux. Nous devons revenir à Dieu, prendre le temps de reconnaître ce qui ne va pas dans notre cœur, reconnaître nos peines, pleurer devant Dieu, lui demander secours. Très souvent dans nos épreuves, nous avons besoin de comprendre ce que Dieu est en train de faire, qu'est-ce que Dieu fait, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire au travers de ce que je suis en train de vivre? tu es fatigué, chargé, tu ne vois plus d'issue dans ta situation. Tu as besoin de prendre du temps dans la présence de Dieu pour exposer ton fardeau. Et tu as cette opportunité de le faire ce matin avec le papier rose qu'on t'a donné tout à l'heure. Donnez ton fardeau, exprimez tes émotions et petit à petit, laissez Dieu agir en toi, te parler, être te reprendre. Je sais que quand les épreuves sont trop fortes, trop lourdes, nous pourrons être facilement tentés d'abandonner la course. Tentés de moins servir Dieu ou de ne plus le servir du tout. Nous croyons, nous pouvons facilement tomber et ne plus nous relever. Mais nous devons apprendre à prendre du temps dans la présence de Dieu pour qu'il nous renouvelle. Nous avons besoin aussi de frères et sœurs pour recevoir de l'écoute, la prière, l'encouragement et parfois certains conseils. Conseils qui ne nous font pas forcément tout de suite plaisir, mais où ça nous aide à nous relever, à nous corriger. Dieu peut nous redonner vie et nous pousser à le servir, quelles que soient les circonstances. Le livre des Actes nous montre ceci. L'Esprit de Dieu en nous doit pouvoir nous utiliser même dans les pires situations, les pires épreuves. Moi, je suis en train de lire l'histoire de Joseph. Hein. Rappelez ce qui s'est passé avec ses frères. Mais est-ce que notre cher Joseph est resté à pleurer sur sa situation? Non. Et s'il l'avait fait, où serait-il? Parce que ce qui s'est passé après, il est devenu le roi, un roi puissant, pour pouvoir aider toute une nation et même son propre peuple. Et c'est après qu'il y a eu ce travail de guérison. L'esprit de guérison se faisait déjà très certainement quand il servait Dieu. Et il a continué à vivre une guérison forte en voyant ses frères, en vivant le pardon. Combien nous devons nous rappeler cela dans les pires épreuves. Dieu, par son esprit, va continuer à nous utiliser et faire de nous des bénédictions pour les autres. Joseph a été une bénédiction extraordinaire pour les autres, jusqu'à nous. Si Paul a réussi à vivre ça, dans les pires épreuves, à continuer à servir Dieu, c'est parce qu'il savait passer du temps dans la présence de Dieu, se ressourcer en lui, apprendre à lui faire totalement confiance. Voilà pourquoi avec ce papier rose, nous allons écrire les choses, les épreuves, les choses qui sont lourdes sur nous, ou peut-être un péché, et le mettre dans le feu pour dire maintenant, je te fais confiance, Seigneur. Je compte sur toi. Je ne reprends pas mon fardeau. Nous devons servir Dieu, mes amis, avec un cœur sans cesse renouvelé par sa présence. Je suis tout le temps repris par des personnes qui servent Dieu et partagent l'évangile malgré leur handicap ou leurs difficultés. On peut penser à Vic, je cite peut-être que vous connaissez cet homme, son bras, sans jambes, qui a dû apprendre à vivre ainsi. Très dur pour lui. Mais Dieu, petit à petit, l'a restauré. Et aujourd'hui, il est un témoin tellement efficace entre les mains de Dieu. Une personne qui ne peut pas se déplacer à cause de sa santé peut prier pour les autres, peut envoyer des SMS ou des mails d'encouragement, poster via des réseaux sociaux des textes qui proclament Jésus-Christ, téléphoner à des personnes qui ont besoin d'encouragement et prier pour elles, aider peut-être aussi avec leur argent des personnes dans le besoin ou des associations. Quelle que soit notre situation, nous pouvons être des témoins. Nous pouvons être des personnes qui encouragent les autres. Quand nous laissons l'Esprit de Dieu agir en nous, aucune difficulté dans notre vie n'est un obstacle pour continuer à servir Dieu et à partager notre foi. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche d'aimer davantage ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ? Nous prenons du temps pour eux, de prier régulièrement pour eux. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer l'évangile? Qu'est-ce qui nous empêche de servir Dieu avec zèle? Mes amis, faisons de chaque situation de notre vie des occasions de servir Dieu. Des occasions de témoigner de l'amour de Dieu aux autres. Des occasions pour encourager, soutenir, relever ceux qui souffrent. On nous passe le flambeau pour, à notre tour, annoncer l'évangile.
lequel j'ai vraiment à cœur de laisser maintenant. Pensons déjà aussi à passer le flambeau aux prochaines générations. Je pense dans ce temps de fête des pères, mais je pense à nous tous ensemble, et en particulier aux parents. Nous avons vu il y a quelques instants des enfants qui sont dans les flambeaux. Il y a plusieurs enfants et jeunes ici. Nous devons déjà penser à eux. Mercredi dernier, à mon réveil, j'ai lu la parole du jour écrite par Bob et Debbie Gass, qui encourageait les parents à montrer l'exemple aux enfants. Donc je lis et je lis, c'est juste une partie. Il dit ceci, un dessin animé se terminait par ces mots, peu importe ce que nous apprenons à nos enfants, ils finiront toujours par se comporter exactement comme nous. Amusant, mais le sujet est plus grave. Il poursuit, un expert affirme, on enseigne ce que l'on sait, mais on reproduit ce que l'on est. Vos enfants peuvent parfois douter de vos paroles, mais ils croiront toujours à vos actes. Alors, premièrement, si vous désirez qu'ils passent du temps dans la prière, priez-vous aussi. Deux, si vous voulez que vos enfants se rendent à l'église, emmenez-les et ne les envoyez pas. Dans le sens, c'est vous qui s'en occupe pour les envoyer. Troisièmement, si vous ne voulez pas qu'ils emploient des gros mots, surveillez-vous. Quatrièmement, si vous ne voulez pas que vos enfants fument, boivent ou se droguent, n'en faites rien vous-même. Fin de citation. Juste après avoir lu ce texte, je vais me raser. Et donc, il vient dans la salle de bain et il se met sur un tabouret à côté de moi, comme à son habitude. Mais cette fois-ci, il m'a bien fait rire. Il a pris sa brosse à dents et il a fait la même chose que moi. Les mêmes gestes. Et puis, je me lave le visage avec de l'eau, et puis lui, il fait la même chose, sans prendre de l'eau, sauf que ce matin, il a fait la même chose. Et après, il était là, se laver aussi avec moi, puis je me suis avec la serviette, et lui, il fait la même chose. Et puis, ça m'a ramené encore cet enseignement que j'avais lu. J'ai beau enseigner mes choses à Noé, mais tu auras surtout ce que je fais. Et pour moi, c'était fort d'avoir lu. Juste après l'avoir vécu cela, moi je dis, Dieu est en train de me dire quelque chose. Si on m'écoute. Une citation qui va dans le même sens et qui est assez choc, c'est celle de Robert Fugler, qui dit ceci aux parents. Ne vous inquiétez pas que vos enfants ne vous écoutent jamais. Inquiétez-vous qu'ils vous regardent toujours. Mes amis, si nous vivons pleinement la mission que Dieu nous confie devant nos enfants, nous sommes déjà en train de leur passer le flambeau pour l'avenir. C'est maintenant que ça se joue. Pas demain. C'est maintenant. Soyons dès maintenant, en tant qu'Église, nous en tout cas adultes, des modèles pour la prochaine génération. Un encouragement, un exemple, une mission. Personne ne peut freiner l'annonce de l'Évangile. Paul profite de chaque occasion pour annoncer l'Évangile. On nous passe le flambeau pour à notre tour annoncer l'Évangile. Je prie que Dieu nous aide à écrire la suite de l'histoire du livre des Actes par la puissance du Saint-Esprit.